Kézéko, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes.
Bon, vous l'aurez compris, la recherche scientifique est au cœur de ce podcast. Après tout, c'est ce qui fait avancer la science. Aujourd'hui, nous restons toujours dans le domaine du spatial et nous allons plus précisément nous intéresser à la question de l'alimentation. Ce besoin essentiel est parfois oublié, mis sur un plan secondaire bien qu'il soit vital et peu à peu menacé. En effet, avec l'extension démographique et la désertification des sols, il devient de plus en plus dur de s'alimenter dans les années qui viennent. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Barbara Belvici, fondatrice du projet Interstellar Lab, qui vise à faciliter l'agriculture en la rendant possible dans tous les milieux, que ce soit dans les champs, dans le désert ou même dans l'espace. Bonjour Barbara.
Bonjour Sarah. Merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui.
Bah de rien, le plaisir est pour moi. On va commencer par une petite présentation parce que beaucoup vous connaissent, mais d'autres... ne connaissent que Interstellar Lab. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de vous, de votre parcours ?
Bien sûr. Bah, moi, du coup, j'ai pas du tout à la base une formation d'ingénieur aérospatial. Mais je suis quelqu'un de très passionné. Je suis passionnée depuis la plus petite enfance. J'étais passionnée d'espace, j'étais passionnée de biologie, passionnée de science. Donc un peu la petite fille un petit peu geek qui, dans sa chambre, fait des expériences, rêve à la vie sur une autre planète, construit, dessine des dômes. Et voilà, j'étais complètement à fond quand j'étais enfant. J'ai même peint les murs de ma chambre de plein de fleurs et de plein de plantes parce que je m'imaginais de vivre à l'intérieur d'un dôme. Puis après, j'ai grandi et j'ai fait des études, alors au début un peu scientifiques, et ensuite je suis allée en école de commerce et je me suis spécialisée dans l'investissement. Et j'ai investi dans des sociétés, d'abord des grosses sociétés, puis ensuite des sociétés plus petites qui développent des hautes technologies, donc des technologies, des robots, tout ce qui va être de l'automatisation, de l'intelligence artificielle. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais peut-être finir par lancer ma propre société pour développer des solutions pour la Terre. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée, un peu un mélange de ce rêve que j'avais quand j'étais petite fille et puis de trouver des solutions pour la Terre aujourd'hui et aussi pour l'espace. Voilà pour le contexte.
Mais du coup, depuis petite, vous aviez déjà une idée finalement, vous aviez déjà eu l'idée de vous lancer dans tout ce qui est entrepreneuriat ou du moins dans le spatial, c'est-à-dire que c'était pas anodin pour vous. Et est-ce que vous aviez eu sinon un métier rêve auquel vous avez renoncé pour vous diriger en fait vers cette vocation-là ou pas du tout?
En fait, petite, j'étais passionnée de ça, mais je pense que je me suis jamais dit en faisant mes études, que ce soit au collège, au lycée, même après à l'école, je me suis jamais dit c'est ce que je vais faire de ma vie. Moi, ce que je pensais que j'allais faire de ma vie, c'était faire de l'investissement et aider d'autres entrepreneurs à développer des solutions. Ça, c'était vraiment ça, le métier auquel je me destinais après mes études. Mais j'ai été rattrapée en fait par ce qui me passionne. Et du coup, tout ce que j'ai appris pendant mes études et le métier d'investisseur que j'ai pu faire pendant plusieurs années, en fait, ça m'a aidé aujourd'hui à pouvoir monter la société Interstellar. Mais c'est un peu comme si j'avais été rattrapée par une passion de l'enfance, que je l'avais mis un peu de côté pour faire autre chose. Et puis d'un coup, ça m'a un peu tombé dessus. Et en fait, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais même sans le savoir.
Donc finalement, vous avez baigné en fait dans ce monde de l'entrepreneuriat en investissant, et c'est finalement en le découvrant par ce biais que vous avez voulu aussi prendre part, et vous avez monté Interstellar Lab. Et du coup, finalement, dans votre métier, donc dans votre journée d'entrepreneuse, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que ça change? Est-ce que c'est un peu la même routine, métro, boulot, dodo? Qu'est-ce que vous faites pendant une journée?
Alors, il n'y a pas de routine, il n'y a pas beaucoup de routine. Il y a beaucoup de, s'il y a une petite routine, je vais expliquer un peu, mais c'est plutôt les montagnes russes que le calme plat. Donc c'est hyper, euh, c'est, c'est hyper intense en fait, la vie d'entrepreneur. Il y a beaucoup de hauts, il y a des bas aussi parce que c'est dur, sinon tout le monde le ferait. Mais la vie d'entrepreneur, c'est fait de moments d'extrême joie et puis de moments de très gros stress avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail. Donc faut être, c'est pas donné à tout le monde. Faut avoir une certaine, je pense qu'il faut être très passionné et faut avoir une résilience. Donc voilà, faut être un peu, faut avoir la peau épaisse comme on dit pour résister au choc. Et le quotidien. Alors qu'est-ce que le quotidien ? Le quotidien, je me réveille plutôt tôt en général. Je fais beaucoup de vélo. Moi j'habite dans le 18e et la société, on a Ivry-sur-Seine, donc ça fait 50 minutes de vélo aller, 50 minutes de vélo retour, donc quasiment 2 heures de vélo par jour, mais j'adore faire du vélo, donc c'est super. Mis à part faire du vélo, la journée, c'est beaucoup beaucoup de réponses à des emails le matin, donc j'aime bien arriver le matin et traiter mes emails. Alors moi je fais pas du tout partie de ces entrepreneurs qui sont qui répondent à tout le monde dans les temps et qui ont leur boîte de réception qui est à 0 email. Moi, en ce moment, elle est plutôt à 5000 emails non lus et non répondus. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. voilà. Et ensuite, donc, une partie email, beaucoup, beaucoup de relations investisseurs. Et ensuite, beaucoup d'échanges avec les investisseurs. Ensuite, pas mal de temps sur le produit avec l'équipe. Donc, en ce moment, on est en pleine construction des biopods ici au hangar. Donc voilà, tous les jours, il y a une nouvelle pièce qui arrive, des nouvelles choses qui arrivent. Donc, il y a énormément d'animation, d'excitation. Je passe pas mal de temps aussi avec les équipes, voir ce qui se passe dans les plans, donc faire un petit tour dans les serres, voir comment on pousse les fruits. On a des fruits de la passion, on a des physalis, on a pas mal de fleurs aussi qui ont bien poussé. On a de la vanille. Donc voilà, passer du temps avec les équipes, comprendre les problèmes qu'ils ont, les aider à trouver des solutions. Et puis surtout réfléchir à la stratégie et ce qu'on va faire dans la suite. Donc en fait, c'est systématiquement de l'anticipation. Et voilà, définir, ok, maintenant on va travailler sur tel produit, aller trouver les équipes, les staffer, leur donner la direction. C'est ça le boulot au quotidien d'un entrepreneur.
Donc finalement, vous avez vraiment l'impression de prendre plaisir, de prendre goût à ce métier, assez changeant. Donc tous les jours, il y a des choses différentes qui arrivent, etc. Et selon vous, de manière objective, quels sont les points positifs et les points négatifs dans ce métier ?
Alors, le point hyper positif, en tout cas pour moi, c'est que je fais ce que j'aime. Et je fais ce qui me passionne. Donc pour moi, c'est pas du travail, hein. C'est de la passion. Donc je suis complètement à fond, avec plein d'énergie, et en fait on se laisse pas abattre, on se relève, on avance, et c'est formidable. Et en plus, c'est un sujet qui est juste extraordinaire. Enfin, on travaille sur l'espace, la vie, la science, le hardware, le software, l'intelligence artificielle, enfin bref, tous les trucs que j'aime. Donc du coup ça, c'est vraiment trop 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 génial. Ce qui est difficile dans ce métier, c'est que c'est dur. C'est que c'est dur, en fait, de développer des produits nouveaux, de venir changer le statu quo, de convaincre des gens. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. J'ai pas de contre ce métier, mais c'est juste qu'il faut avoir conscience de l'énergie que ça demande. Et malgré tout, essayer de s'accorder des moments de repos aussi. Peut-être que ce que je fais pas assez. Mais voilà.
D'accord, bah finalement c'est un bilan assez positif. Après, il y a aussi une part de risque, hein. Donc au niveau du lancement de l'entreprise, ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident et ça marche pas toujours. Vous avez pu aussi le voir, je pense, quand vous avez investi. Mais sinon, c'est vrai que si on est fait pour, enfin, après, il y a pas en fait de personnalité type à avoir pour entreprendre, mais faut quand même avoir conscience des risques et avoir conscience de la pression ainsi que des responsabilités que ça apporte. Je pense que ça peut être finalement un très beau métier passion, avant tout, et un métier dans lequel on s'épanouit. Alors maintenant, je te propose de passer à la deuxième partie de l'interview, donc c'est-à-dire celle qui va concerner le projet Interstellar Lab, parce que ça passionne beaucoup et ça intrigue surtout. On m'a dit que ça ressemble à de la science-fiction, on m'a demandé si c'était concret. Eh bien oui, c'est très concret, vous allez le voir tout de suite. Tout d'abord, on voulait savoir si vous avez collaboré avec des agences spatiales.
On travaille beaucoup avec la NASA, donc on a deux contrats avec la NASA. Un premier contrat qu'on a gagné l'année dernière, où en fait La NASA cherche à développer des nouveaux systèmes pour produire de la nourriture dans l'espace. Et donc, on a fait une proposition d'un système pour faire pousser des plantes, réutiliser les déchets des plantes pour nourrir des insectes et ensuite la matière qui est produite par les insectes pour en faire pousser des champignons dessus. Donc, en fait, on a créé un système qui est un ensemble de 9 cubes qu'on appelle des cubes à environnement contrôlé. Donc, c'est exactement c'est la même chose que le produit qu'on fait sur Terre, qui s'appelle le Biopod, sauf que c'est pas une bulle gonflable, mais c'est un cube. Et à l'intérieur, on contrôle la même chose, la température, l'humidité, la lumière, et on va recréer les conditions idéales pour les plantes, et cette fois-ci les insectes et les champignons. Et du coup, ça on a gagné l'année dernière. Donc la NASA a financé le design. Cette année, ils financent le prototype et on va pouvoir le montrer à la fin de l'année dans notre laboratoire qu'on a au Kennedy Space Center, donc à Cape Canaveral. Le deuxième contrat qu'on a avec la NASA, c'est un contrat assez gros. On n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais dans pas longtemps, on va vraiment l'annoncer, parce qu'on l'annonçait pas trop. Mais en gros, c'est un contrat de 3 ans sur lequel la NASA va nous accompagner, enfin 3 ans plus 2, donc 5 ans au total, sur laquelle la NASA nous accompagne sur la version lunaire du Biopod. Donc en fait, on prend le Biopod tel qu'on l'a conçu aujourd'hui et on l'adapte aux conditions lunaires. Il y a d'autres projets en cours avec lesquels, enfin, on travaille avec des stations spatiales, donc pour pouvoir envoyer dès 2024-2025 nos premiers systèmes en station orbitale. Et en parallèle de ça, on a répondu à plusieurs appels d'offres de la part de l'Agence spatiale européenne, et on est aussi très très proche de l'Agence spatiale française du CNES. Pour l'instant, on n'a pas encore de contrat avec eux, mais on se parle beaucoup, on se suit beaucoup.
D'accord. Finalement, c'est vrai que c'est concret, ça avance, et il y a plusieurs contrats qui sont signés. Mais là, on en parle comme si on savait c'était quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast qui ne savent pas ce qu'est un biopod, un biodôme. Et en quelques mots, comment vous pourriez expliquer de manière simplifiée Interstellar Lab, en quelque sorte?
Ouais. En fait, notre métier, donc on est une société dite de haute technologie. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 30 personnes avec des ingénieurs, des architectes, des agronomes, des développeurs, et des personnes qui travaillent sur toute la partie automatisation. Et tous ensemble, en fait, on développe des produits, des structures plus spécifiquement, donc des structures qu'on va pouvoir déployer. Donc il y a la première structure qui s'appelle le Biopod, donc c'est un dôme gonflable. Si on veut essayer de se l'imaginer quand on n'a pas d'image en face des yeux, en fait c'est comme un gros cocon qu'on va gonfler en extérieur, qui repose sur une base solide, un peu comme une coque de bateau. Et à l'intérieur de ce cocon, il y a tout un ensemble d'appareils électroniques qui vont recréer un climat. Donc ça va créer un climat indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur de la bulle. Et ce climat, on met des niveaux de température qui peuvent monter jusqu'à très haut. On joue sur l'humidité, on joue avec la lumière, et donc on arrive à faire par exemple un climat tropical alors qu'on est à Paris en plein hiver. Et du coup, à l'intérieur de cette bulle, on crée ce climat-là, et en plus on a un système, différents systèmes de différentes tailles qui nous permettent de faire pousser des plantes. Et donc vraiment le biopod, c'est une serre qui recrée n'importe quel climat et dans laquelle on va accélérer la croissance des plantes.
D'accord, et tout à l'heure vous avez parlé de dôme gonflable, mais c'est vrai que c'est assez difficile à imaginer. C'est fait de quel matériau en fait ce biodôme?
Alors, donc il y a deux matériaux principaux qu'on utilise pour la structure. Donc on a d'abord une coque, vraiment il faut s'imaginer un peu comme une coque de noix ou une coque de bateau. Vraiment, je pense que c'est la représentation la plus simple, qui fait jusqu'à 2 mètres de haut à certains endroits. Donc elle est très très haute. Et cette coque, elle est faite en matériaux composites. Donc pour la fabriquer, c'est exactement le même matériel qui est utilisé pour faire les avions, pour faire les bateaux, pour faire les fusées. C'est comme s'il y avait un bout de fusée en fait qu'on avait au sol. Et au-dessus de ce morceau, on a ce qu'on appelle une membrane, donc une structure souple qui en fait se rigidifie une fois qu'on la gonfle, et une membrane qui est faite dans un matériel qui s'appelle le TFE, donc qui a un plastique qui est extrêmement durable, qui a une durée de vie de plus de 50 ans et qui est totalement recyclable. Et nous en fait on a développé un système qui nous permet à la fois de le gonfler et en même temps de créer une forte isolation. Donc du coup, tout ce qui est à l'intérieur de la bulle va être séparé de ce qui se passe à l'extérieur.
Est-ce que c'est justement cette isolation qui va permettre de recréer, enfin de reconstituer un écosystème terrestre n'importe où, donc dans l'espace aussi, ou il y a d'autres choses que vous allez mettre en place? Parce qu'en fait, il y a aussi plusieurs contraintes spatiales à prendre en compte, comme par exemple la gravité, la différence de pression, de température, et comment vous comptez y faire face?
Alors, la membrane, elle va nous permettre de créer un environnement qui va être isolé, si on parle de l'espace, hein, donc un environnement qui va être isolé de, par exemple, de l'environnement lunaire, où d'ailleurs il n'y a pas d'atmosphère, il y a un tout petit peu de gravité, enfin il y a un peu de gravité, mais il n'y a pas d'atmosphère. Elle nous permet donc de nous isoler, donc de créer un environnement dans lequel on va contrôler toutes les conditions atmosphériques, donc le volume, les niveaux de CO2, les niveaux d'oxygène, et de pouvoir voilà recréer ce qui va permettre à la vie de se déployer. Par contre, elle nous permet une isolation thermique aussi, parce qu'il y a des variations de température extrêmement fortes, notamment sur la Lune, où il fait très très froid. Et donc, en ayant une bonne barrière thermique, ben, ça nous permet de conserver la chaleur à l'intérieur du biodôme. Pour ce qui est des radiations solaires, alors on a deux versions, hein. Il y a bien sûr la version de la membrane pour la Terre, où là, on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes. Mais la version pour la Lune, justement, où on multiplie les couches en fait, du matériau pour assurer une meilleure isolation et protection contre les radiations solaires. Ensuite, ce qui va changer entre le produit qui est fait pour la Terre et le produit spatial, ça va être notamment les systèmes d'irrigation. Parce que comme on a une gravité qui est différente, bah, l'eau va se comporter différemment en gravité réduite, voire même en environnement en microgravité, hein, comme on est en orbite basse. Et les systèmes donc, qui vont apporter l'eau aux plantes sont différents. Sur Terre, on vient faire ce qu'on appelle de l'aéroponie, donc on souffle des toutes petites gouttelettes d'eau avec de la solution nutritive à la racine des plantes. En microgravité, ce qu'on fait, c'est qu'on a plutôt un médium, donc une espèce de poche dans laquelle on vient mettre de l'eau, et c'est la racine qui va pomper l'eau, parce que si on spread la racine en microgravité, bah, ça va complètement enrouler la racine et ça va tuer la plante. Sur la Lune, c'est un système intermédiaire. Comme il y a un peu de gravité, et ben en fait on va pouvoir contrôler l'eau beaucoup plus facilement qu'on peut le faire en orbite basse. J'espère que je ne suis pas trop rentrée dans la technique, parce que c'était un peu technique.
Non, mais c'est important quand même. Mais du coup, en fait, si j'ai bien compris, ce dôme qu'on voit un peu partout, il n'est pas identique pour tous les écosystèmes. C'est-à-dire que vous allez l'adapter en fonction de la destination, c'est ça?
Exactement. Exactement. On garde des concepts similaires de design et en termes de vision, c'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye de faire aussi, notamment pour la Lune et pour Mars derrière, c'est de créer des dômes transparents. On n'est pas dans une... c'est très bien les lavatubes, hein, beaucoup poussent pour aller s'installer dans les lavatubes parce que ça nous protège des radiations solaires, etc. Moi, c'est pas la vision que j'ai envie de porter. La vision que j'ai envie de porter, c'est que dans un futur proche, l'homme pourra vivre sur la surface de la Lune dans des structures qui auront cette transparence. Donc, on garde le design. Par contre, les matériaux changent et les systèmes changent. La partie logicielle, donc ce qu'on va appeler un operating system, comme un logiciel de téléphone, comme le logiciel de l'ordinateur. Donc nous, on a des logiciels qui permettent de faire travailler le biopode. Ça change pas par contre. Ce sont les mêmes qu'on soit sur Terre ou dans l'espace.
Donc là, on voit vraiment, il y a un réel intérêt au niveau de la conception de ce biopode pour tout ce qui est extraterrestre, on va dire, donc pour la vie sur Mars ou sur la Lune. Parce que c'est vrai que normalement, on n'est pas apte à faire de l'agriculture directement à même le sol dans ces environnements-là. Mais par contre, c'est vrai qu'on est amené à se demander pourquoi proposer ce genre de solution pour un terrien si on a déjà accès à de l'agriculture basique. Est-ce que c'est plus durable? Est-ce que c'est plus ergonomique? En fait, quels sont les différents avantages que propose votre biopode sur Terre?
En fait, le sujet, il y a plusieurs besoins sur Terre. Tout d'abord, il y a 9 milliards d'humains qu'il va falloir nourrir d'ici peu. Et aujourd'hui, l'agriculture traditionnelle atteint ses limites parce que on produit beaucoup, on a usé les sols. Et c'est pas durable. Et c'est pas durable. Et voilà, il y a deux possibilités. Soit on ralentit tout Et on arrive, et l'agriculture arrive à subvenir à tout le monde. Et ce schéma-là, malheureusement, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que, voilà, avec la croissance et tout ce qui se passe, il faut trouver d'autres moyens. Et de toute façon, en plus, avec le dérèglement climatique, aujourd'hui, on doit faire face à, des risques de perte de culture qui arrivent extrêmement souvent, et sur lesquels il faut proposer des solutions. Du coup, nous, ce qu'on propose, c'est pas de remplacer toute l'agriculture par de l'innovation technologique. Il y a une partie, par exemple, on ne va pas faire des champs de blé dans des biopodes, ça n'a pas de sens. Par contre, dans un biopode, on peut faire pousser des mangues, des avocats et les faire pousser aux portes de Paris. Donc plutôt que d'aller les chercher à l'autre bout du monde, d'avoir des émissions de CO2 qui sont liées au transport, de consommer extrêmement d'eau et d'abîmer les sols, nous on va permettre de rapatrier quelque part une partie de la production en local, et surtout, comme on est dans une bulle fermée, de vraiment optimiser la croissance le plus possible. Et donc, en utilisant moins de ressources, moins d'eau, moins d'énergie, moins de solutions nutritives, de vraiment accélérer la croissance de la plante et d'éviter l'érosion des sols et la pollution des sols. Mais le futur pour moi sur Terre, ça va être une combinaison de technologies comme la nôtre et d'agriculture traditionnelle, c'est certain.
D'accord, donc là on parle de futur sur Terre, mais on a aussi parlé de futur sur l'espace, et ça pose question, parce que c'est assez paradoxal. Est-ce que vous voulez protéger la vie sur Terre, ou est-ce que vous voulez l'amener dans l'espace? Et est-ce que vous pensez aussi, comme certains, que Mars pourrait être un backup de la Terre quand elle sera polluée, comme vous le dites?
Alors, en fait, pour moi c'est pas du tout paradoxal, parce que ce dont je suis fondamentalement convaincue, c'est qu'en fait à la base tout ça c'était qu'un seul, donc la Terre et Mars en fait c'était qu'une seule petite boule, grosse boule de gaz au départ, et puis tout s'est formé derrière. Mais donc ce que je pense en fait, c'est qu'au final le fait que l'homme partent explorer d'autres planètes, c'est pas vraiment l'homme conquérant, je vais aller conquérir d'autres planètes, c'est l'homme fait partie de la vie, enfin l'homme avec un, l'homme, la femme, au sens général.
Avec un grand H.
Voilà, avec un grand H, exactement. Fait partie de la vie, fait partie de la nature. La nature, elle se développe et elle s'étend et elle se répand et elle veut vivre et elle veut survivre. Et en fait, pour moi, le fait d'aller dans l'espace et d'emmener la vie, que l'homme emmène la vie avec lui, parce qu'aujourd'hui, l'homme sait faire la technologie, c'est pas pour l'homme, ça fait partie d'un grand mouvement qui est lié au mouvement d'expansion de la vie. Et donc pour moi, c'est pas du tout. Je fais pas du tout partie de ces gens qui disent Mars, planète B, quoi. Non, en fait, il y a une planète A qui est la Terre, et ensuite il y a l'homme et la vie qui va chercher à se répandre. Et donc de toute façon, on ne pourra devenir une civilisation multiplanétaire que si on arrive à bien vivre sur Terre. Donc, faut faire les deux en même temps, et c'est en faisant les deux en même temps qu'on arrivera à pousser ce rêve d'exploration spatiale, et sans le faire au détriment de la Terre, parce que ça va être compliqué de vivre sur Mars, hein, c'est quand même pas sympa comme environnement, quoi.
Donc il y a en fait finalement tout un aspect, il y a un aspect d'équilibre, donc faut le faire sur Terre tout en le faisant sur Mars, faut pas polluer la Terre pour aller se réfugier sur Mars, ça ne marchera pas dans tous les cas. Et justement, en fait, votre dôme, il propose des solutions durables à l'agriculture. Vous avez parlé tout à l'heure, en fait, de l'exportation, donc ça évite tout cet aspect-là, mais également, en fait, un système de régénération, si je puis dire, parce qu'en fait, l'eau est réutilisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce dôme autonome, en quelque sorte?
Comme le dôme, il est totalement hermétique. Alors, la manière dont fonctionne le biopode, c'est que d'abord, il va aspirer de l'air pour pouvoir se gonfler. Donc, c'est comme s'il faisait une grande inspiration. Donc il se gonfle. Une fois qu'il a atteint sa taille, on va pouvoir lancer les programmes à l'intérieur pour créer le climat qui convient. Donc il y a différents programmes, programme tropical, programme vanille, vétiver, ça dépend de type de plante qu'on fait cultiver, au programme fruits de la passion. En ce moment, on fait des fruits de la passion au laboratoire. Et du coup, on lance ce programme, et à ce moment-là, tout s'active. Donc il faut d'abord, il y a une intervention humaine qui consiste à remplir le tank d'eau, comme si on allait remplir faire le plein d'essence d'une voiture, sauf que là on fait le plein d'eau, donc c'est plus cool, je trouve. Donc on fait le plein d'eau du biopod, et ensuite le biopod, il vient s'alimenter comme ça en eau, fait passer dans les différents tuyaux qu'il a, et les mixe avec les solutions nutritives, et l'envoie jusqu'aux plantes. Et une fois que l'eau elle est passée dans ces tubes-là, ben, on récupère toute l'eau qui va s'évaporer des plantes, parce que les plantes, elles transpirent, et on récupère cette eau qui donc ça s'appelle l'évapotranspiration, et on vient la remettre dans le système, et donc à l'intérieur du biopod, dans la coque en dur, il y a une petite usine de traitement d'eau, donc on refait passer l'eau qui la retraite et la purifie, et hop, ça repart dans le système. Et donc du coup, on n'a pas d'eau qui s'échappe du biopod, et tout est en circuit fermé et en circuit continu. C'est ça une des grandes spécificités de biopod, c'est vraiment d'avoir cette approche totalement circuit fermé et système fermé.
Bah écoutez, c'est un très beau projet, un très beau parcours en tout cas, qui peut être très inspirant pour plusieurs. Et je voulais vous demander, en fait, avant qu'on se quitte, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous les futurs entrepreneurs et entrepreneuses par rapport à ce monde de l'entrepreneuriat ?
Alors, moi, ce que je veux dire à tous les entrepreneurs, c'est de suivre votre passion, d'écouter ce que vous dit votre ventre, puis votre cœur et enfin votre tête, et dans cet ordre-là et pas dans l'autre, parce qu'au final, ce qu'on sent dans les tripes, c'est un peu toujours la vérité, et c'est ça qui va vous aider à tenir dans les moments de montagne russe. Mais voilà, surtout suivez votre passion et suivez les choses qui vous animent, de faire preuve de résilience, mais par contre de pas aller là où vous êtes pas soutenu. Donc si faut se remettre en question, mais parfois ça sert à rien de taper de taper à une porte qui veut pas s'ouvrir. Souvent ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux aller chercher une autre porte, parce qu'il y a toujours une autre porte cachée derrière. Donc voilà, ça c'est mon conseil.
Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce temps que vous nous avez accordé. C'était très intéressant d'avoir les mots d'une experte. J'espère en tout cas que l'interview vous aura plu et qu'elle a pu répondre à nombreuses de vos questions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était Sarah de Kezako.